1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. C'est le texte que nous allons prendre comme méditation pour ce matin. 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17, au nom de Jésus. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rempli de force pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance et de m'avoir désigné pour le servir. Bien que j'ai parlé contre lui autrefois, bien que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi, parce que je n'avais pas la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Notre Seigneur a répondu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine qui mérite d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ montre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour tous ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, sois honneur et gloire pour toujours. Amen. Comme je l'ai dit au tout début de ce culte, notre thème se focalise sur la pitié de Dieu. Le mot pitié a plutôt une connotation négative dans notre langage humain. Avoir pitié de quelqu'un, c'est toujours pas bien aperçu. C'est quelque chose de même de dégradant pour l'être humain. Et elle n'apporte rien à celui qui souffre. Au contraire, elle renforce encore un peu plus l'ego de la personne qui semble avoir de la pitié envers son soi-disant ami. Et la pitié reste dans le domaine de l'émotion, tout simplement. Et ça ne va pas plus loin que ça. Oh, le pauvre, oh, le malheureux. C'est juste un cri d'émotion. Et ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça. Je ne sais pas, c'est peut-être pour cela que les autres versions de la Bible, j'ai consulté par exemple la NBS et la TOB sur ce texte, et ces deux versions n'ont pas repris le mot pitié. Ça m'a étonné, mais ils ont préféré les termes compassion et miséricorde au lieu de choisir le mot pitié. Mais rien qu'en voyant ces différentes possibilités de traduction, nous pouvons déduire que la pitié de Dieu n'a rien à voir avec notre pitié à nous. Parce que la pitié de Dieu est traduite comme une compassion, comme une miséricorde. La question qui se pose alors, comment expliquer cette compassion et cette miséricorde ? Ce n'est pas juste une émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle s'est concrétisée en acte. Et regardez bien le verset 15 de notre texte de tout à l'heure. Le verset 15, il dit « Voici la parole certaine qui mérite d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux. » Jésus est venu dans le monde pour sauver. Voilà l'expression de la compassion. C'est un Dieu qui est descendu du ciel et qui est venu vers nous. C'est ça la compassion. Un Dieu qui descend et qui sauve celui qui est considéré le plus pire de tous les pécheurs. Et Paul se proclame en premier. Paul parle de lui. S'il parle de quelqu'un, alors là, c'est trop facile. Mais il se sacrifie à notre place pour dire « Oui, c'est moi le plus pire des pécheurs dans le monde. » Et il le fait sans mâcher ses mots. Et comment il se décrit au verset 13? Si on va lire au verset 13, voilà ce qu'il est dit. « Bien que j'ai parlé contre lui autrefois, bien que je l'ai persécuté et insulté, et dans d'autres traductions, il est dit, j'étais blasphémateur, j'étais persécuteur, j'étais outrageant ou insolent. » Est-ce qu'une telle personne aurait encore sa place parmi les apôtres? Or, il fait partie des apôtres de Dieu. Est-ce qu'un persécuteur peut devenir un apôtre de Dieu? Oui, il l'est. Et c'est ça la grande différence de la pitié de Dieu par rapport à notre pitié. Il fait encore confiance à celui qui est le plus pire des pécheurs. Cette pitié et cette compassion de Dieu sont trop fortes que certains des contemporains de Paul même réclamaient sa tête. Parce que quand il disait « Je suis l'apôtre de Jésus-Christ » à chaque fois, si vous lisez les épîtres de Paul, à chaque début de chapitre, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ », il le martèle à chaque fois, c'est parce qu'il répondait à certains qui le critiquaient « Non, on peut accepter d'autres, mais pas lui quand même. Lui, apôtre de Jésus-Christ, lui qui a tué nos frères, lui qui a massacré nos enfants, lui qui a versé du sang de ses propres mains, comment ose-t-il se prononcer comme l'apôtre de Jésus-Christ? C'est un blasphème. » Et c'est pour ça que, à chaque premier chapitre, il commence par ça, parce qu'il sait bien qu'il y a une hostilité pour son titre d'apôtre. Et beaucoup n'acceptaient pas qu'il fasse partie des apôtres, même au milieu de l'église de Jérusalem. Et même Paul l'avoue aussi à moitié quand il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 à 9, il dit « En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi l'avortant. » Il se dit l'avortant. Hein, Jésus m'est apparu à moi, moi l'avortant, « car je suis le plus petit des apôtres. » Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il l'avoue. Il ne se justifie pas. Mais il le dit, si je suis l'apôtre de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il a eu pitié de moi. Pour lui, pour être apôtre de Jésus-Christ, ce n'est pas une appellation honorifique. Et c'est là que les gens se sont trompés. On pense que c'est un honneur d'être appelé un apôtre. Non, pour Paul, ce n'est pas un titre honorifique. Pour lui, au contraire, celui qui est appelé apôtre, comme lui, c'est celui qui est le plus indigne de parmi tous. Et ça a une résonance particulière. Et c'est là que se trompait tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, au temps de Paul. Donc, on peut dire que Paul donne une autre vision de la vocation. Quelqu'un qui a une vocation, c'est quelqu'un qui est le plus indigne. Et souvent, on se trompe quand on voit un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui est appelé pour devenir pasteur. Souvent, c'est la tâche la plus difficile au niveau des commissions des ministères ou au niveau des instances des églises, parce qu'on a toujours la tendance de voir un peu et de creuser dans son passé. Oui, peut-être c'est quelqu'un qui a eu un passé très lourd, mais c'est justement, rappelez-vous, Paul, celui qui est le persécuteur, qui est devenu l'apôtre. Souvent, on croit que quelqu'un qui a une vocation, c'est quelqu'un qui doit avoir telle ou telle qualité. Oui, peut-être, mais je suis navré, Paul était un usurpateur aux yeux des Juifs. Et donc, quand il parle de la grâce de Dieu ou de la pitié de Dieu, il sait bien qui il était d'abord, d'où il venait et qu'est-ce qu'il avait fait. Il savait qui il est. Maintenant, pourquoi Paul nous écrit ces quelques lignes? parce qu'il s'adresse à son fils spirituel, Timothée. Il lui exhorte à son tour d'avoir la patience qu'il faudrait envers les fidèles. Et la raison de cette patience est bien motivée dans les explications de Paul, parce qu'il se met à la place des fidèles de Timothée. Normalement, il doit se mettre dans le camp de Timothée, mais là, il se met à la place des fidèles comme s'il se déclare comme un avocat de ses paroissiens. Et Paul fait un petit rappel à Timothée sur l'origine de ses fidèles au verset 10. Il souligne bien qu'auparavant, ils étaient des gens immoraux, même si on ne l'a pas lu. Au verset 10, il le dit bien. Ce sont des gens immoraux au départ, des pédérastes, c'est ce qui est écrit, des marchands d'esclaves, des malfaiteurs, des rebelles, des méchants, des personnes qui tuent leur père et leur mère, des assassins. Rappelle-toi, tous tes membres chez toi, Timothée, ce sont des personnes qui ont eu un passé assez lourd. Et donc il attire l'attention de Timothée de ne pas oublier que ce sont des personnes qui n'ont pas du tout connu Dieu avant. Et par conséquent, toutes ces années passées sous le joug de leurs mauvaises habitudes, qui étaient leur vraie nature, il ne faut pas tout de suite penser que du jour au lendemain, ils seront irréprochables. Et c'est le message de Paul. Tu vas te tromper si du jour au lendemain, même s'ils se convertissent en Christ, tu crois que du jour au lendemain, ces gens-là vont être irréprochables parce qu'ils appartiennent au Christ. Non, ils ont un passé assez lourd. Et donc, qu'est-ce que Paul demande à Timothée ici? Il demande à Timothée de tenir compte de tous ces paramètres en faisant un lien avec son histoire à lui. Vous voyez, Paul se situe au même niveau de ces personnes-là. Il dit que ces gens-là sont comme moi, des blasphémateurs, des insolents, des persécuteurs, mais que Dieu avait eu pitié ou avait compassion en lui. Paul ne demande pas à Timothée qu'il tolère certaines choses, c'est pas ça, mais qu'il ait une compréhension. Et là, il y a une grande différence. Comprendre, mais pas tolérer ce qu'ils font. Cette compréhension se traduit par la patience et qu'il faut du temps à effacer tout doucement les séquelles du passé. Et nous le savons très bien, ce n'est pas facile d'effacer tout doucement le passé de chacun d'entre nous. Souvent, c'est un grand problème entre les soi-disant nouveaux convertis, je mets ça entre guillemets, ou les nouveaux arrivants dans la foi, et ceux qui étaient déjà là pendant un bon bout de temps dans une communauté. Ceux qui sont appelés aînés spirituellement doivent prendre une considération ceux qui viennent d'arriver. Il faut prendre en considération que même eux, s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont passé par plusieurs étapes. Donc moi, par exemple, en tant que pasteur et en tant que berger, avec les nouveaux arrivants, parfois les gens pensent que comment ça se fait que le pasteur tolère que tel paroissien fait ce... Non, ce n'est pas une tolérance, c'est une compréhension parce que chacun a son rythme. Et Dieu a un plan pour chaque individu. Donc on ne peut pas faire de la photocopie comme on traite un paroissien avec un autre paroissien. Chacun est unique devant Dieu. Et donc, à notre tour aussi, de faire très attention de ne pas brûler les étapes, même si nous sommes brûlés par la passion et le désir de changer nos amis. Et lisons bien la dernière partie du verset 16. Il dit bien, Jésus-Christ montre toute sa patience et sa générosité, comme un exemple en vue d'une vie éternelle. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, la générosité de Dieu ou sa patience envers son serviteur Paul et les autres n'est que le reflet de la vie éternelle promise par Dieu. C'est ça la vie éternelle, cette patience éternelle, la vie que Dieu nous a promis, c'est une vie éternelle. Donc, si c'est pour une vie éternelle, pourquoi ? Pourquoi nous qui avons reçu une grande miséricorde et une grande compassion, pourquoi nous ne pourrions pas être patients envers les autres ? Si Dieu était patient envers toi pendant tant d'années, pourquoi tu n'es pas patient avec les autres ? Si Dieu a tant attendu des années jusqu'à ce que tu dises oui à lui, pourquoi toi tu ne l'es pas avec ton frère ? Donc ne le brutalise pas, ne le force pas. Sois patient comme ton père envers ton frère. Et c'est ce qui est dit dans l'évangile de tout à l'heure, le frère aîné. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, père ? J'étais avec toi pendant des années et tu ne m'as même pas donné un bœuf pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et lui qui a dépensé toute ta fortune avec les prostituées, avec ses amis, et tu oses encore faire une fête pour lui. C'est là le problème des frères et sœurs en Christ. Quand il y a les nouveaux et les anciens, lui et moi. Et ce qui se passe parfois, ça c'est l'humour de Dieu, ces nouveaux arrivants, quand ils ont des problèmes, on prie pour eux. C'est étonnant, à chaque fois, leur réponse à leur prière arrive plus vite que le nôtre. Et là on dit, mais c'est qu'est-ce que tu es en train de me faire, Seigneur ? Pourquoi lui qui vient de venir dans la communauté, il a reçu déjà, mais moi ça fait 10 ans que j'attends. C'est ça notre Seigneur, on ne peut pas le mettre dans une boîte et mettre une notice à l'intérieur. Et puisque nous avons déjà la vie éternelle, c'est elle qui nous propulse et nous motive à marcher et continuer notre chemin, non pas dans le but d'atteindre une perfection ou une vie sans faute, mais d'être toujours en route. C'est d'être toujours en route. Et n'est-ce pas ce que le psalmiste disait justement dans Psaume 1, verset 1, nous le connaissons très bien, mais parfois on ne le comprend pas. « Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, et surtout qui ne s'arrête pas sur le chemin, ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec eux, avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. » Et il le médite jour et nuit, c'est-à-dire il rumine la parole de Dieu jour et nuit. Voilà ce qui devrait nous différencier du monde. Ce n'est pas parce que nous sommes irréprochables que nous sommes enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu avancent toujours après plusieurs chutes. Le juste pourra tomber 7 fois, dit les Proverbes. 7 fois, ça veut dire, on ne va pas compter 7 fois, mais ça veut dire que on ne cessera pas de tomber. Nous sommes des êtres humains. Mais le juste pourra tomber 7 fois, mais il se relèvera. Tandis que les méchants perdent pied dans le malheur. Que cela aussi soit effectif dans notre vie. Amen.